Chapitre 15. Mon cœur ne cesse de chanter ton nom, et je pleure. Mon corps ne cesse de désirer ton corps, et je pleure. Mes seins ne cessent d'implorer tes mains, et je pleure. Mon ventre ne cesse de réclamer ton poids, et je pleure. Ma bouche ne cesse d'exiger ta langue, et je pleure. Mes yeux ne cessent de pleurer ton absence, et je chante. Poème attribué à Phénix, Gersalemine, femme supposée du prince San Francisco des Américains. Depuis quelques mois régnait une grande effervescence sur Jérusalem. Le moment approchait du passage des Xaxas, que les quatre tribus du peuple élu attendaient depuis 8000 ans. L'ancien, l'exégète de la Nouvelle Bible, s'appuyant sur les vers du livre des Xaxas, avait déterminé la date probable où les migrateurs célestes couvriraient le ciel de Néo-Europe et se poseraient sur le satellite glacé de la planète Franzia. Dans moins d'une semaine, selon ses calculs, commencerait le voyage vers la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem de gloire et de lumière. Les 3500 membres de la tribu du Brésil, gouvernés par le prince Rio de Janeiro, chargés du ravitaillement en produits de première nécessité, et donc dispersés sur les mondes recensés, avaient été rapatriés. Les préparatifs s'achevaient dans une atmosphère à la fois recueillie et festive. Les tribus renonçaient aux sempiternelles et futiles querelles de préséance ou de territoires édéniques qui les avaient jusqu'alors opposées. Elles recouvraient le même esprit de fraternité que lorsque, 8000 ans plus tôt, la Binéliane avait rassemblé le grand peuple de Fraël dans un gigantesque vaisseau de fer et l'avait guidé jusqu'à sa nouvelle terre de glace et de neige. Les quatre grands abines, en vêtements d'apparat, multipliaient les cérémonies dans le temple de Salmon, où trônaient les deux immenses globes sacrés, posés sur des socles de plus de 20 mètres de diamètre. L'un représentait le point de départ, la terre des origines. Elle était tellement usée que les taches ocres, brunes ou vertes qui marquaient l'emplacement des continents, se diluaient dans le bleu passé des océans. Le second, qui symbolisait la Jérusalem céleste, le but ultime de la migration des Xaxas, était en revanche parfaitement conservé. Comme la terre des origines, la planète mythique se composait de 4/5 d'eau et d'un 1/5 de terre, répartis en 3 continents principaux, en îles de plus ou moins grande importance et en 2 pôles entièrement recouverts de banquises. Sur les conseils éclairés de l'Abine Eliane, les premiers Jérusalemines avaient conçu une cartographie approximative de la Jérusalem de lumière. Des lignes noires, repeintes tous les ans, divisaient les 3 continents et la plus grande des îles australes en 40 pays, destinés à recevoir chacun une tribu. À côté des multiples points sombres, dont était criblé le globe, étaient apposés des noms sacrés qui, au fil des siècles, étaient devenus les patronymes des 40 tribus de Fraël et des enfants du peuple élu. Ainsi, bien avant le grand voyage, chacun savait où s'installerait sa tribu. Les Australiens du prince Melbourne occuperaient la moitié de la grande île de l'hémisphère sud. Les Japonais du prince Kyoto investiraient une île étroite du Levant. Les Français du prince Paris et les Espagnols du prince Grenade recevraient les territoires occidentaux de l'immense continent Europasie. Les Indiens du prince N'Delhi éliraient domicile dans le pays qui bordait une chaîne montagneuse et s'enfonçait comme un fer de lance dans l'océan. Les Nordiques du prince Oslo résideraient sur les terres proches de l'océan Arctique. Une seule tribu n'était pas fixée sur son sort. Les Américains du prince San Francisco, condamnés au bannissement pour avoir contesté publiquement les interprétations abiniennes de la Nouvelle Bible de Jérusalem. Les Américains demeuraient dans l'attente d'une décision finale des 4 grands abines et des 39 princes régnants. Le territoire de la tribu serait-il annexé par le prince Vancouver et ses Canadiens, ou par le prince Acapulco et ses Mexicains? Les Abines désigneraient-ils un nouveau prince en remplacement de l'exilé? En aucun cas il n'était question d'absoudre San Francisco comme l'avaient réclamé les 3500 membres de sa tribu et quelques membres isolés d'autres tribus. Des rebelles de toute appartenance, canadiens, chinois, russes, anglais, avaient même dérobé un vaisseau du globe et déserté Jérusalem pour se mettre au service du banni. Des rumeurs insistantes annonçaient leur retour, mais à cela il serait dorénavant plus difficile d'entrer dans le ventre d'un Xaxas qu'à un Gok d'être admis dans la Jérusalem de lumière. Pendant que les 39 princes et les 4 grands abines débattaient de ce point essentiel dans le Torial, la salle des assemblées, les Jérusalémines se livraient à une dernière répétition du rituel du départ. Lors du dernier passage d'Exaxas, 80 siècles plus tôt, 3 migrateurs célestes égarés avaient été ensevelis par une subite coulée de glace et figés dans la muraille abrupte du cirque du Golan, située à 130 km d'Elian, la capitale de Jérusalem. Les chefs spirituels et temporels du peuple élu avaient jugé préférable d'attendre le dernier moment pour dévoiler la présence sur leur monde de ces 3 spécimens congelés et parfaitement conservés. Ils avaient craint que ces preuves concrètes de la mythologie jérusalémine n'aient un effet pernicieux sur les âmes de leurs ouailles. La foi et l'obéissance aveugle étaient les fondations sur lesquelles s'élevait le fragile édifice bâti par l'Abin Elian. Et si les membres du peuple élu avaient eu plus tôt la possibilité d'admirer les 3 Xaxas de la zone taboue du cirque du Golan, ils se seraient peut-être détournés de la parole sacrée pour adorer ces carcasses brunes qui flottaient dans les glaces pour l'éternité. Les Abines avaient tiré les leçons de l'épisode du veau d'or relaté par l'antique Bible terrienne. Le peuple originel de Fraël avait déjà fait la démonstration de sa propension à négliger les 5 commandements et à se prosterner devant des idoles. Cependant, à quelques semaines du grand départ, les Abines et les princes avaient estimé le moment venu de lever l'interdit et de permettre aux leurs de se familiariser avec l'aspect extérieur de leurs futurs véhicules spatiaux. Tour à tour, les 140 000 Jérusalémines, emmitouflés dans de chaudes peaux d'ours ygre des neiges, remontaient de la ville souterraine d'Elian, s'entassaient dans les glacières de chasse, des navettes à voiles solaires montées sur d'immenses patins d'acier, et venaient observer les migrateurs célestes figés dans le glacier. Le plus grand mesurait environ 15 mètres de la tête ogivale et surmonté de 3 bosses annelées à la queue, une sorte de membrane cartilagineuse déployée en éventail. D'une longueur comprise entre 6 et 7 mètres, les 2 autres présentaient, hormis leur taille, les mêmes caractéristiques que leurs grands congénères. Corps profilé aux flancs légèrement rebondis, carapace extérieure rugueuse, cabossée, d'un brun sale qui, à cause des échauffements atmosphériques, tirait sur la rouille ou le noir. Bien que l'épaisseur de la glace dressât un écran opaque entre les visiteurs et les Xaxas, on pouvait distinguer les nombreux cristaux bleu-vert enchâssés dans les carapaces. Les savants jérusalémines, pris de court, n'étaient pas parvenus à déterminer l'origine et la composition de ces minéraux. Était-ce vraiment des minéraux? Et les avaient appelés, par défaut, des cristaux. Ils présumaient que ces excroissances translucides captaient les courants interstellaires, les transformaient en énergie motrice, voire supraconductrice, et permettait aux migrateurs célestes d'atteindre un seuil de vitesse où ils basculaient dans un autre espace-temps. Leur origine, leur mode d'existence, leur système de reproduction, les raisons de leur migration, leur faculté de résister à la pression du vide, la manière dont ils métabolisaient l'oxygène et l'eau, tout cela restait un mystère. Un groupe de chercheurs avait demandé l'autorisation aux Abines d'extraire un Xaxas du glacier et de le disséquer. Il souhaitait étudier ses mécanismes internes pour fabriquer des Xaxas artificiels dans le cas improbable où les prédictions de la nouvelle Bible s'avéreraient infondées. Non seulement le Conseil des Abines n'avait pas accédé à leur requête, mais il avait condamné ces impudents à être jetés en pâture aux oursigres sauvages du cirque des pleurs. On ne joue pas impunément avec les commandements de la Sainte Bible. Les Abines avaient surtout redouté que l'on découvrît un corps humain à l'intérieur du Xaxas. Le corps de l'Abine Eliane, par exemple, ce qui eût renversé l'édifice des croyances gersalimines comme un vulgaire château de cartes. Les membres du peuple élu, hommes, femmes et enfants, tentaient de repérer l'orifice sacré des migrateurs, en théorie placé sous le ventre, non loin de la queue. Mais la membrane de leurs ailes repliées, ajoutée à la compacité de la glace, empêchait de distinguer quoi que ce fût sous les replis inférieurs de la carapace. Tout reposait pourtant sur cet orifice, qu'on évitait soigneusement d'appeler anus, car, d'une part, on ne savait pas si les Xaxas possédaient un quelconque système digestif et l'évacuation s'y afférant, et d'autre part, il n'était pas très glorieux de devoir le paradis au trou du cul d'un animal, même mythique. Selon la nouvelle Bible de Jérusalem, les migrateurs célestes ne se posaient qu'une poignée de minutes sur le glacier, le temps que leurs premières occupantes, les chrysalides divines, évacuent leur grand corps et se métamorphosent en papillons de lumière. Il fallait ensuite agir très vite, se déshabiller, localiser l'orifice sous le ventre, s'y introduire en commençant par la tête et remonter doucement les trois boyaux jusqu'au compartiment central. Là, on devait s'allonger sur le plancher de chair et attendre que le Xaxas adapte son métabolisme à son nouveau parasite. Il emmagasinait l'oxygène et l'eau nécessaires aux 40 jours que, selon la Bible, durait la traversée spatiale. Il offrait le gîte et la boisson à son hôte, mais pas le couvert. Dès leur plus jeune âge, les Gersalimines s'étaient donc entraînés à pratiquer un jeûne annuel de 40 jours, appelé le Radan. C'était devenu une seconde nature chez eux. Les Brésiliens du prince Rio de Janeiro, qui vivaient sur les mondes extérieurs depuis plus de 20 ans, n'avaient par exemple jamais omis d'observer le Radan, et bien leur en avaient pris car ils étaient sur le point de toucher les dividendes de leur persévérance. La plupart des familles gersalimines n'avaient droit qu'à 2 enfants, et encore, uniquement lorsqu'il s'agissait de remplacer des anciens décédés, des hommes victimes de règlements de compte entre tribus, des rebelles condamnés à finir dans le ventre d'un oursigre ou des femmes pécheresses coulées dans des piliers de glace. Cette régulation des décès et des naissances, supervisée par un groupe de femmes célibataires surnommées les filles des Sions, avait une double fonction, préserver le nombre sacré des 140 000 élus d'origine et éviter une surpopulation catastrophique sur un monde aussi pauvre en ressources que l'était Jérusalem. En l'an 6400, de nombreux couples avaient refusé de se soumettre au contrôle des naissances et avaient engendré jusqu'à 4 ou 5 enfants. La population était brutalement passée à 220 000 âmes, et la tribu en charge du ravitaillement, c'était alors les Allemands du prince Hambourg, s'était avérée incapable de fournir les vivres en quantité suffisante. Les grands Abines avaient décidé de rétablir le cours normal de la démographie gersalémine. Les gardes des 40 princes avaient rassemblé les familles fautives sur le haut glacier de Fraël et les avaient passées par le fil de l'épée. Le glacier avait bu le sang des sacrifiés, avait conservé une teinte uniformément pourpre et depuis lors avait été classé zone taboue. Cette époque, restée dans la mémoire collective comme le « jour maudit des 80 000 », était une plaie ouverte et saignante sur la conscience collective du peuple élu. Les parents enseignaient les gestes essentiels du rituel de l'Exode à leurs enfants. On leur apprenait à ne pas donner de coups de pied dans le ventre du Xaxas, à réduire leurs mouvements au strict minimum pour économiser l'oxygène, lequel provenait de poches internes légèrement poreuses et se renouvelait dès que le besoin s'en faisait ressentir. À recueillir sur la pulpe des doigts les gouttes d'eau qui perlaient des parois de chair et à s'en humecter les lèvres. Pour peaufiner leur entraînement, de nombreuses familles, pour ne pas dire toutes, avaient installé des orifices, des conduits et des compartiments factices dans leur appartement. La ville souterraine d'Eliane résonnait d'une activité fébrile, bruissante. L'imminence de l'exode glorieux électrisait les Gersalémines, peuple ordinairement austère, à un point tel qu'il ne parvenait plus à trouver le sommeil. Il déambulait toute la nuit dans les rues, des galeries voûtées creusées dans le cœur du glacier et enluminées par des bulles lumière flottantes, se lançait dans des discussions enfiévrées sur le pas des portes, sur les places, sur les marches des escaliers qui montaient vers les tubes de surface. Jamais on n'avait semé autant de rires, autant de fleurs sonores dans la cité. En ces heures fabuleuses, ils n'avaient pas envie de rester confinés à l'intérieur des murs lisses et froids de leurs appartements. Ils désiraient partager leur bonheur et leur fierté avec leurs amis, leurs voisins, et même avec des inconnus appartenant à des tribus traditionnellement ennemies de la leur. La vision morbide des hommes et des femmes nus figés, depuis plus de 50 siècles pour certains, dans les piliers de condamnation, ne parvenait pas à ternir leur allégresse. Ils abandonneraient bientôt derrière eux ces témoins muets et horrifiés de la cruauté de leur peuple. Ils seraient lavés de toutes leurs fautes sur la Jérusalem céleste. Ils vivraient en compagnie des dieux et des anciens prophètes. Ils se gorgeraient de chaleur et d'amour. Ils se rouleraient nus et libres dans une herbe grasse et parfumée. Ils humeraient les senteurs enivrantes des fleurs. Ils ne connaîtraient plus la maladie, la mort. Ils seraient servis pour l'éternité par les anges radieux de l'Éden. Une seule tribu ne partageait pas l'allégresse générale. Rassemblés devant la porte monumentale de Torial, plus de 1000 Américains attendaient l'issue des débats qui engageaient leur avenir. Des colonnes droites ornaient les quatre murs du gigantesque bloc de glace centrale, dans lequel avait été excavée la salle des assemblées. Les faisceaux puissants des projecteurs tournants, fixés sur des rampes métalliques insérées dans la haute langue glaciaire, se brisaient sur les parois lisses où se découpaient les bouches sombres des avenues principales de la cité. À côté du Torial, se dressait la dentelle de glace du dôme et des flèches du temple Salmon. La nef qui renfermait les globes sacrés était la construction la plus imposante des lianes. Lors des grandes cérémonies des éclipses, ces gradins circulaires pouvaient accueillir plus de 30 000 personnes. Les mouvements lents de la langue glaciaire ou des névées l'avaient endommagé à plusieurs reprises au cours des 80 siècles de la présence du peuple élu sur Jérusalem, et les 40 tribus de Fraël avaient dû la consolider ou en refaire entièrement certaines parties. Avec l'entretien de leur ville, soumise elle-même aux déplacements incessants des calottes, la conservation et l'embellissement du temple de Salmon constituaient deux des activités majeures des hommes jérusalémines. Peu à peu, au fil des siècles, étaient venues s'ajouter des voussures annelées autour du portail d'entrée, des sculptures introduisant au mystère sacré de la Nouvelle Bible, des pièces annexes hérissées de piliers biseautés, des voûtes de renforcement en berceau, des mosaïques de morceaux de glace de différentes épaisseurs qui, par l'entreprise des projecteurs tournants, se transformaient en somptueux vitraux. Phénix, une jeune femme de la tribu des Américains, remonta le col de son manteau d'oursigre blanc. Cela faisait des heures qu'elle piétinait sur le sol de glace de la place du Torial, et en dépit de ses bottes fourrées, ses pieds commençaient à se refroidir. Elle contemplait distraitement les corps inertes des hommes et des femmes suspendus à l'intérieur des piliers du bâtiment. Les femmes avaient été ensevelies intactes dans la glace, et n'eussent été la teinte légèrement bleutée de leur corps et l'expression d'épouvante qui se lisait encore dans leurs yeux grands ouverts, on aurait pu les prendre pour des statues. Les hommes, quant à eux, avaient eu le membre viril tranché avant d'être coulés dans les piliers, et le sang qui avait jailli de leurs blessures s'était gelé en un nuage pourpre autour de leur bassin. Avant son exil, le prince San Francisco avait expliqué à Phénix les motifs de leur condamnation. « Les premières victimes de la religion du globe. 73 siècles que ces pauvres gens contemplent la place du Torial. Tout ça parce qu'ils ont eu des relations sexuelles avec des gox au cours d'une escapade touristique sur Franzia. J'ai lu leur histoire sur le registre de l'Ancien. San Francisco n'en avait pas dit davantage, sans doute pour ne pas compromettre la jeune femme. Mais Phénix avait compris que ni la tête ni le cœur du prince des Américains n'était en accord avec la vision abinienne de la Nouvelle Bible. Elle n'avait en revanche pas imaginé que cette dissension irait jusqu'à provoquer le bannissement perpétuel de San Francisco. Bien qu'il fût parti depuis maintenant plus de 20 ans, elle n'avait jamais cessé de l'aimer, et elle voulait encore croire qu'il partageait ses sentiments. Elle regrettait de ne pas l'avoir suivi sur le chemin de l'exil, mais elle n'avait pas atteint ses 16 ans lorsqu'avait été prononcée publiquement la sentence, et ses parents, son père Dallas et sa mère Cheyenne, avaient refusé de la laisser s'enfuir avec les rebelles des différentes tribus. Âgée maintenant de 36 ans, de plus en plus belle dans sa maturité de femme, elle avait catégoriquement repoussé les demandes en mariage des multiples soupirants, américains ou autres, qui s'étaient présentés dans les appartements de ses parents. Elle n'avait reçu aucune nouvelle, directe ou indirecte, de San Francisco, et si son cœur lui murmurait avec insistance qu'il ne l'avait pas oublié, qu'il allait bientôt revenir la chercher, sa tête voyait avec inquiétude se rapprocher le jour du passage des Xaxas. Elle ne savait pas encore quelle serait sa décision dans le cas où les migrateurs célestes se poseraient avant que le prince en exil n'ait eu le temps de se manifester. Elle doutait fort que le Jérusalem de lumière eût le goût suave de l'Éden si elle s'y rendait sans l'élu de son cœur.
« Que crois-tu qu'ils vont faire de nous ?»
demanda Denver, une femme d'une 60aine d'années qui sautillait sur place à côté de Phoenix. Des petits nuages de condensation naissaient et mouraient devant ses lèvres brunes. Ses longs cheveux gris volaient autour de son visage cuivré qu'aucune ride ne sillonnait. Elle était, comme Phoenix, comme la plupart des Jérusalémines, vêtue d'un manteau d'oursigre, d'un pantalon et de bottes fourrées.
« Ce serait une malédiction pour nos cœurs et pour nos êtres que d'être annexés aux Canadiens et aux Mexicains, »
reprit Denver.
« Ce serait une malédiction pour tout le peuple élu. Nous aurions brisé l'unité originelle des 40. Pourquoi a-t-il fallu que le prince San Francisco s'oppose ouvertement aux grands abîmes et à l'ancien ? À cause de lui, le Créateur et ses dieux nous ont peut-être chassés de leur tête et exclus de la Jérusalem céleste. »
« San Francisco a agi selon son cœur, » répliqua vivement Phoenix.
Denver cessa de sautiller et jeta un regard en biais à la jeune femme. Des braises vives luisaient dans les minces fentes de ses yeux. Tout autour d'elle, des hommes et femmes de tous âges arboraient des mines lugubres, fixaient obstinément le portail à double battant du Torial.
« J'avais oublié que l'amour et la clairvoyance ne font pas souvent bon ménage. »
murmura Denver. Elle estima sans doute qu'elle faisait preuve d'encore trop d'indulgence vis-à-vis de la fille de Dallas et de Cheyenne, dont tout le monde, sur Jérusalem, avait entendu parler de l'amour désespéré qu'elle portait au prince banni. Denver était tellement excédé d'attendre, de contenir sa vessie et la rage froide qui lui cisaillait les entrailles, qu'elle ressentait le besoin pressant de se défouler sur quelqu'un.
« Il ne viendra plus, ton prince, » siffla-t-elle. « Même sur la Jérusalem céleste, tu resteras une vieille fille au cœur desséché, un ventre inutile, et tu ne connaîtras plus jamais le plaisir d'être labourée par le soc d'un homme. »
Phoenix eut l'impression que les mots de Denver étaient des pics de glace qui lui perforaient le cœur. Elle fut traversée par une envie violente d'extirper son poignard de la poche intérieure de son manteau et de l'enfoncer jusqu'à la garde dans la gorge de la railleuse. Intimidé par les lueurs farouches qui embrasaient les yeux noirs de son interlocutrice, Denver se recula et se fondit dans la multitude environnante. Phoenix se rendit alors compte que sa réaction emportée ne faisait que traduire son propre désarroi, sa propre sensation d'être passée à côté de sa jeunesse, à côté de sa vie. Elle traversa la place de Torial et s'engagea dans une étroite veine urbaine. Fendant les innombrables groupes épars qui devisaient gaiement sur le pas des portes, elle parcourut les 3 kilomètres de la rue pentue et se dirigea vers le tube vertical de surface, taillé directement dans la langue glaciaire. Elle se faufila par l'étroite ouverture de la paroi et prit pied sur une plateforme individuelle qui entama aussitôt sa lente ascension. Il fallut 10 minutes à la petite surface circulaire et métallique
pour franchir les quelques 300 mètres qui séparaient la cité d'Éliane de la surface de Jérusalem, puis 3 autres pour s'abouter au ponton de surface. Avant même de s'engouffrer dans l'escalier de sécurité, un accès que les hommes d'entretien étaient obligés de dégager tous les jours, Phénix sentit sur son visage et sur son cou les morsures de la bise nocturne. Elle sortit une paire de gants de peau de la poche de son manteau, les enfila, remonta son col de fourrure sur ses joues et gravit les marches de glace en s'agrippant fermement à la rampe métallique. Dehors, les semelles antiglisses de ses bottes crissèrent sur la mince couche de neige qui recouvrait le glacier. En dépit de son manteau et de ses gants, et bien qu'elle fût, comme tous les Gersalémines, accoutumée à la température polaire du satellite de Franzia, un froid intense s'infiltra dans ses mains, dans ses bras, dans ses jambes, dans son bassin, dans son ventre, dans sa poitrine. Et dire que les membres du peuple élu devraient retirer leurs vêtements pour entrer dans le ventre d'Exaxas. La nuit tendait son velours paisible sur la blancheur immaculée de la banquise. Tout en marchant pour éviter de geler sur place, elle contempla le splendide bouquet stellaire de Néorope, spirale diamantine ornée en son centre du flamboyant rubis de Beta Phipsi, la reine pourpre. Puis elle observa le gigantesque luminaire vert de Franzia, qui occupait plus du quart de la planète céleste. San Francisco était peut-être là-bas, à la fois si proche et si loin d'elle. Qu'attendait-il pour venir la chercher, pour venir l'aimer? Ses yeux larmoyèrent, mais elle se retint de pleurer. Par -55 degrés, il ne faut que quelques secondes pour que les larmes se transforment en douloureuses stalactites de glace. Elle perçut soudain des bruits de pas derrière elle. Elle se retourna et entrevit 2 éclats jaunes qui crucifiaient l'obscurité. Un oursigre sauvage. Il était rarissime que les grands fauves à la fourrure blanche s'aventurent si près de la cité souterraine. La gueule entrouverte, les babines retroussées sur ses longs crocs aiguisés, fléchies sur ses puissantes pattes arrière, il se tenait désormais à 10 mètres de Phénix, dont le rythme cardiaque s'accéléra brutalement. Elle s'évertua à recouvrer son calme. Elle s'immobilisa, invoqua le mot sacré de la Binéliane, puis, dès que son corps eut accompli la translation d'invisibilité, elle se rua vers l'escalier d'accès de la cité. La subite disparition de sa proie désorienta l'oursigre pendant un court laps de temps. Il ne la distinguait plus, mais il continuait de flairer son odeur. Il percevait ses déplacements d'air. Il voyait les traces de ses pas s'imprimer sur la neige. Lorsqu'il comprit qu'elle ne s'était pas envolée, mais seulement soustraite à son regard, il poussa un terrible feulement et bondit dans la direction que lui indiquait son odorat. Ses griffes se refermèrent sur le vide. Sa proie était parvenue à se glisser dans l'orifice qui s'ouvrait sur la cité des hommes, un endroit qui pouvait très rapidement se transformer en piège mortel. Il n'insista pas et s'éloigna au trot vers des contrées moins giboyeuses mais plus rassurantes. Les rugissements des moteurs du vaisseau du globe déchirèrent le silence de l'aube. Les rayons rasants de Farfadet 1, qui n'avait pas encore fait son apparition à l'horizon, paraient le ciel et la banquise d'un subtil voile rose. L'appareil ne se dirigea pas vers l'aire de stationnement située à 20 kilomètres de la cité d'Élian et reliée à cette dernière par des glaciers à voile solaire, mais après que ces 5 pieds rectilignes se furent déployés hors de la coque rougeoyante et ruisselante de particules enflammées, il atterrit à 100 mètres des accès de surface. Son atterrissage provoqua une véritable tempête de neige sur un rayon de 2 kilomètres et d'épaisses volutes de fumée montèrent de la croûte glaciaire surchauffée. C'était typiquement le genre de manœuvre qui pouvait activer les mouvements de la banquise et provoquer de redoutables plissements souterrains. Mais le capitaine de ce vaisseau était apparemment un homme pressé et donc peu respectueux de la fragilité écologique de Jérusalem. Dès que la fumée et la neige se furent dispersées, les guetteurs de jour, armés de fusils à propagation lumineuse, surgirent des accès et se disposèrent en cercle autour de l'appareil, dont les pieds s'étaient enfoncés dans la glace sur les 2/3 de leur hauteur. Une ouverture ronde se découpa sur la carène. La tête d'une passerelle flottante vint se poser lourdement sur le sol en soulevant une gerbe de neige. le prince San Francisco des Américains, paré de l'ample cape de laine blanche officielle de son rang, émergea le premier de l'ombre du vaisseau. Le suivant, un enfant goque de 8 ou 9 ans, enveloppé dans un manteau d'oursigre blanc beaucoup trop grand pour lui. Deux autres goques, un jeune et un ancien, sanglés dans des manteaux de cuir en principe réservés aux navigants des navettes marchandes, et une vingtaine de gersalémines vêtues d'épaisses combinaisons de guerre. Les guetteurs ne savaient pas quelle attitude adopter. Ils avaient entendu dire, comme tout le monde, que les rebelles étaient indésirables sur le sol de Jérusalem, mais ils n'avaient reçu aucune consigne précise à leur sujet, et même si San Francisco était un proscrit, ils hésitaient à ouvrir le feu sur l'un des 40 princes du peuple élu.
« Que l'un d'entre vous aille annoncer ma venue aux grands abîmes !»
dit San Francisco d'une voix forte en posant le pied sur la banquise.
« Impossible, prince ! Il célèbre l'office du matin !»
rétorqua un guetteur.
« En ce cas, conduisez-nous au temple de Salmon. »« Mais, prince !»
Le guetteur se tut, conscient de l'inutilité de ses protestations. Les 20 gardes du corps s'étaient déployés autour du prince des Américains et avaient posé la main sur la poignée de leur épée. L'enfant et les 2 adultes Gox se tenaient en retrait, près du socle de la passerelle. Bien qu'avec l'avènement du jour, la température fût remontée d'une 20aine de degrés, leurs lèvres avaient pris une vilaine teinte bleuâtre. Ils claquaient des dents et tremblaient de tous leurs membres. Les guetteurs avaient l'avantage du nombre et de l'armement, mais aucun d'eux n'était prêt à se sacrifier à quelques jours du passage des Xaxas et à renoncer à ses chances de gagner la Jérusalem de lumière.
« Tu connais le chemin, prince. Tu n'as pas besoin de nous pour te rendre au temple de Salmon, »
hasarda l'un d'eux.
« De quoi êtes-vous à l'affût ? » demanda San Francisco.
« Des premiers Xaxas ? »
Les jours approchent et nous guettons les signes avant-coureurs du passage des migrateurs célestes. »
San Francisco hocha la tête. Les chants de l'espace, les vents de clarté, la danse des comètes.
Je vois que tu n'as pas oublié les versets de la Nouvelle Bible, prince.
Les guetteurs s'écartèrent pour laisser passer la petite troupe. On ne pourrait pas leur reprocher d'avoir refusé de faire couler le sang en ces jours bénis de gloire et de pardon. Aucun d'eux ne songea à établir la relation entre la présence de l'enfant Gok et un verset prophétique mineur du grand livre d'Exaxas. Les chants de l'espace, les vents de clarté et la danse des comètes seront précédés par l'innocence de l'enfant venu des lointaines contrées. L'enfant qui vainquit par la seule force de son amour les féroces animaux du grand désert. Les tunnels de glace, percés à intervalles réguliers de lourdes portes de bois massif, les rues de la cité des Lians et les portes des habitations, avait précisé Moscou, étaient déserts et silencieux. Jack, Marty et Robin de Fart, dont les bottes n'étaient pas pourvues de semelles antiglisse, marchaient à petits pas prudents. Ils consacraient l'essentiel de leur énergie à conserver leur équilibre, car les tunnels déclives pouvaient à tout moment se transformer en sournois et périlleux toboggans. De temps à autre, ils passaient devant un pilier carré et, aux lueurs diffuses des bulles-lumière, entrevoyaient à l'intérieur des visages épouvantés, des yeux grands ouverts, des corps qui semblaient s'être brusquement arrêtés de vivre. Jack avait demandé à Moscou pourquoi ces gens avaient été emprisonnés dans la glace. Mais les traits du Jérusalemine s'étaient durcis et il n'avait pas daigné répondre. Le silence cotonneux qui régnait sur la galerie absorbait le bruit de leurs pas et le son de leur voix. Au bout d'une heure de marche, ils débouchèrent sur une place au centre de laquelle se dressait un bâtiment carré, entouré de colonnes éclairées par les faisceaux des projecteurs tournants et habité, elle aussi, par des cadavres intacts de femmes et des corps mutilés d'hommes. Jack éprouva un sentiment de malaise devant ces statues mortuaires et pour certaines, voilées d'un nuage pourpre en suspension.
« Le Torial, » murmura San Francisco, « la salle des assemblées. »
Il s'efforçait de ne pas le montrer, mais son retour sur Jérusalem et dans la cité des Lianes le remplissait d'émotion. À bord du Papiduc, il avait erré de monde en monde pendant plus de 20 ans, mais jamais il n'avait oublié sa planète natale, le pays de glace et de neige où il avait grandi, où il avait joué, où il s'était battu, où il avait aimé. Devant la façade et le portail monumental du Torial, à l'intérieur duquel il avait si souvent débattu avec l'Ancien et les 39 autres princes du peuple élu, il se rendait compte que le Créateur unique et ses serviteurs, les dieux, l'avaient exilé dans le seul but d'aider un autre prince, le prince des hyènes, à accomplir sa destinée. Il ne s'était pas posé de questions, avait agi selon son cœur, mais sa tête comprenait maintenant que la mission primordiale de son existence, son devoir, consistait à conduire Jek dans le cirque de l'envol avant le passage des Xaxas. Il lui fallait à tout prix convaincre les Abines de laisser le petit Anjorien prendre place à l'intérieur d'un migrateur céleste. Il ne demandait pas grand-chose pour lui-même, simplement que lui fût rendu Phénix, qu'il avait quitté alors qu'elle n'avait pas encore atteint ses 16 ans. Son cœur lui soufflait qu'elle ne l'avait pas oublié. Ils contournèrent le bloc du Torial, s'engagèrent dans un large passage et se dirigèrent vers le temple de Salmon, sur l'immense parvis duquel se dressaient plusieurs milliers de Gersalémines.
Tous ceux qui n'ont pas trouvé de place à l'intérieur du temple, précisa Moscou.
Le bâtiment des assemblées n'était pas dépourvu d'une certaine grâce, mais comparé au temple de Salmon, il paraissait tout à coup inesthétique, lourd, grossier.
Quelle merveille ! S'exclama Robin de Fart. Qu'en dites-vous, Marty ? Je vous avais bien dit que Jérusalem valait le détour.
Marty s'en moquait. L'insupportable froid qui se répandait dans ses pieds, dans ses mains, dans ses membres, l'engourdissait, l'anesthésiait. Il ne songeait qu'aux baisers tièdes du vent Coriolis dans la seconde nuit syracusaine, aux caresses délicates de roses rubis et de soleil saphir, aux senteurs parfumées qui flânaient dans les rues de Vénitia. Il se demandait quelle raison poussait des êtres humains à vivre comme des animaux à l'intérieur d'un glacier. Du coin de l'œil, il épiait Jek, qui, à en juger par la pâleur de ses joues et le violet de ses lèvres, était aussi frigorifié que lui. L'autre, le démon, guettait inlassablement le moment où le petit Anjorien se retrouverait isolé. Pour l'instant, l'opportunité de l'éliminer ne s'était jamais présentée. Jek s'était toujours débrouillé pour être accompagné d'un ou plusieurs adultes. L'inexplicable disparition de Montréal n'avait rien arrangé. Par l'intermédiaire de Marty, l'autre, le démon, avait tenté de laisser croire à une fausse manœuvre en déclenchant l'ouverture d'une trappe de la soute inférieure. Les Gersalémines n'avaient pas été convaincus de la coupable négligence de Montréal, un navigant confirmé de la tribu des Canadiens. Mais l'essentiel était qu'aucun d'entre eux n'ait eu l'idée de fouiller la cabine de Marty. Heureusement que la traversée n'avait duré que 2 jours, car la puanteur, dans cet espace exigu et confiné, était rapidement devenue intenable.
« Comment trouves-tu le temple de nos amis de Jérusalem, Jek ?»
insista Robin de Fart. Il ressentait l'irrépressible besoin de partager son enthousiasme avec quelqu'un. Et comme Marty ne semblait guère disposé à s'enflammer, il s'était rabattu sur Jek, dont la tête émergeait à peine du col relevé du manteau de fourrure.
« C'est beau ?» dit le petit Anjorien.
C'était un avis bref mais sincère. La majesté harmonieuse de la construction de glace l'émerveillait, le bouleversait même. Les murs élancés, étayés par de nombreuses voûtes en berceaux ou arcades mineures, culminait à plus de 200 mètres de hauteur, et il avait l'impression que le sommet arrondi du dôme central et les flèches latérales dont il apercevait les écoinçons dentelés traversaient l'épaisse langue glaciaire supérieure. Outre les sculptures et voussures qui ornementaient le chambranle du portail monumental, de nombreuses niches hexagonales abritaient des scènes de la Nouvelle Bible, dont les personnages miniatures étaient aussi finement ciselés que les œuvres de cristal des artisans d'Anjor. La lumière vive des projecteurs tournants, tombant de la voûte, dessinait d'admirables figures géométriques dans les mosaïques de glace qui remplaçaient avantageusement les vitraux des traditionnels édifices religieux.
« Un véritable chef-d'œuvre !»
s'extasia Robin de Fart, les larmes aux yeux. Le vieux Syracusain regrettait que San Francisco lui ait interdit de se servir de son petit enregistreur holographique, le seul objet qui l'ait sauvé de tout l'attirail scientifique et livresque qu'il s'était résolu à lâcher dans la cabine du papiduc. Les Gersalémines n'avaient pas le droit de priver les humanités de ce témoignage unique de leur histoire et de leur savoir-faire. Les yeux de Jack, fatigués par le gigantisme du temple, revinrent se poser sur Robin. Dans le vaisseau du globe, il avait tenté de s'ouvrir de l'étrange comportement de Marty au vieil homme, mais celui-ci avait immédiatement changé de sujet, comme s'il se refusait catégoriquement à entendre la moindre parole négative à l'encontre de son complanétaire. Jack avait pris conscience que Robin souffrait du même manque affectif que le viduc Papyronda, qu'il évitait soigneusement de ternir la tendresse paternelle et tardive qu'il éprouvait pour Marty. Les hommes étaient prêts à toutes les folies pour exprimer leur rage d'aimer. Jack avait alors cherché à se confier à San Francisco, mais il lui avait été impossible d'obtenir une entrevue en tête-à-tête avec l'ancien second du viduc, sans cesse sollicité et entouré par ses hommes. Il en avait donc pris son parti et faisait en sorte de ne jamais se retrouver seul face au monstre caché de Marty.
« Le prince San Francisco ! Le prince banni !»
hurla une voix. Les têtes des Gersalémines restées à l'extérieur du temple se tournèrent à l'unisson vers le petit groupe qui gravissait les quelques marches du parvis.
« Des Gox ! Le prince San Francisco a ramené des Gox !»
Des milliers de regards incrédules, hostiles, haineux, se posèrent sur Jack et les deux Syracusains. Ce n'était pas le retour inopiné du prince déchu qui stupéfiait ou offusquait les membres du peuple élu, mais le fait qu'il était accompagné d'individus des humanités maudites, reniés par le globe, des rejetons de femelles au ventre putride et de mâles à la semence infectée. Plusieurs hommes et femmes s'extirpèrent de la multitude, vinrent s'agenouiller devant San Francisco et baisèrent respectueusement les pans de sa cape de laine.
« Béni sois-tu, 40e prince de Jérusalem. Tu viens à temps pour empêcher tes fils américains d'être annexé par les princes Vancouver et Acapulco. »
San Francisco les releva avec douceur. « L'heure est venue de l'épreuve de vérité. Tenez-vous prêts. » Ses gardes du corps dégainèrent leur épée, formèrent un infranchissable cordon autour de lui et des trois Gox et se frayèrent un passage dans la foule agglutinée sur le parvis. Nul ne s'avisa de les molester, de les insulter, et tous s'écartèrent sans opposer la moindre résistance. Du portail grand ouvert s'échappaient les chants sacrés du peuple élu, les chants qui évoquaient l'Odyssée de Labyn Elian et des 140 000 fraélites, le passage des migrateurs célestes et l'exode vers la Jérusalem de lumière. Les gradins circulaires sur lesquels se pressaient plus de 30 000 Gersalémines, une affluence exceptionnelle pour un prime office de l'aube, surplombait le cœur de la nef, un espace rond pavé de morceaux de fuselage du vaisseau des origines, entouré de luxueux fauteuils où avaient pris place l'ancien et les princes dont un seul restait vide. Au centre de la nef se dressaient les énormes globes sacrés, l'ancien et le nouveau monde, la terre des origines et la terre promise, l'un qui s'était déjà effacé et l'autre dont les traits, les points et les noms, fraîchement repeints, symbolisaient les héritages territoriaux des tribus. Les chants se turent peu à peu et firent place à une rumeur qui alla s'amplifiant. Les regards convergèrent vers l'allée principale où un groupe d'hommes en uniforme de guerre écartait sans ménagement les fidèles qui obstruaient le passage. Le prince San Francisco, escorté de trois Gox et de ses hommes, s'avança jusqu'à la nef. Les quatre grands abîmes, debout derrière les pupitres où étaient ouverts les quatre bibles lumières des origines, suspendirent leurs gestes. Leurs longues chasubles blanches et incrustées de minuscules éclats de fer tombaient sur leurs bottes blanches, Des mèches torsadées s'échappaient de leurs couvre-chefs coniques et noirs et se répandaient sur leurs épaules comme des ruisseaux sombres et furieux. Elles rappelèrent à Jek les deux mèches décoratives que Patskin croyait bon de tirer hors du cache-tête de son col encore. Le petit Anjorien compara spontanément les abîmes aux missionnaires creudiens. Même peau cireuse, même regard sévère, même allure d'oiseau de proie. Moscou lui avait d'ailleurs raconté que les rares missionnaires creudiens qui avaient eu l'inconscience de mettre le pied sur Jérusalem s'en étaient retournés sur leur monde d'origine dans de petits sacs étanches. On leur avait, entre autres, enfourné le pénis dans la bouche et une bourse dans chaque orbite oculaire.
Le message était le suivant. Votre verbe et votre vision du monde sont aussi infectés que votre semence,
avait ajouté Moscou dans un grand éclat de rire.
Mais l'église du Kreutz ne s'est pas totalement désintéressée de nous. Un jour, elle nous fera gazer comme les quarantins du terrarium nord d'Anjor. Ce sera trop tard. Les migrateurs nous auront emportés vers la Jérusalem de lumière.
Les fumées qui montaient de petits récipients posés sur des trépieds répandaient une forte mais agréable odeur d'encens. Les deux immenses globes à dominante bleue posés sur leur large socle ressemblaient à des planètes jumelles dont l'une aurait prématurément vieilli. Ou ils maîtrisaient parfaitement leurs sentiments, ou ils avaient anticipé cette rencontre. Toujours est-il que les grands abîmes ne parurent ni surpris ni contrariés par le retour de San Francisco. Ils s'alignèrent calmement à l'entrée de la nef, croisèrent les bras et toisèrent le banni. Quant aux 39 princes, ils restèrent assis et évitèrent de croiser le regard de braise de leur père. Il ne s'en était pas trouvé un pour prendre sa défense 20 ans plus tôt, lors du procès en hétérodoxie que lui avaient intenté les gardiens de la Nouvelle Bible. Un silence pesant retomba sur le temple. Les 30 000 assistants, pétrifiés sur les gradins, retinrent leur souffle.
« Tu n'as rien à faire sur Jérusalem, San Francisco !» déclara un abîme. « Tu as été banni pour l'éternité de nos têtes et de nos cœurs !»
Sa voix puissante, tranchante, s'envola vers les sommets de la nef.
« Tu as non seulement eu l'effronterie de te représenter devant nous, sans y être convié, tu as également eu l'audace inouïe d'introduire des gox, des traîtres à l'humanité dans ce lieu saint. Jusqu'alors, nulle engeance maudite, nul fils ou fille d'une semence infectée et d'un ventre putride n'avait profané le temple de Salmon. »
Jek, figé derrière la cape de San Francisco, se rendit compte que l'abîme parlait de lui et cela lui fit tout drôle de savoir que Pa et Ma Atkin avaient été d'aussi piètres concepteurs.
« Abin, je bénis le jour où vous m'avez condamné à l'exil, »
répondit San Francisco d'une voix forte.
« Grâce à vous, j'ai pu visiter le vaste univers. J'ai rencontré d'innombrables gox, et je me suis aperçu que mes frères des humanités dispersées avaient autant de qualités de tête et de cœur que les élus.
« Ne parle pas au nom des élus !»
coupa l'abîme.
« Tu ne fais plus partie du grand peuple de Fraël. Tu es devenu un goc parmi les gocs, un traître parmi les traîtres, un maudit parmi les maudits.
Abîme, vous condamnez sans savoir. » Vous, les gardiens vigilants de la Nouvelle Bible de Jérusalem, vous avez suivi le chemin de votre tête et vous avez laissé la friche envahir le sentier de votre cœur. Or, les versets de la Nouvelle Bible s'adressent au cœur de l'homme. Ce sont les voies secrètes qui mènent au temple intérieur. Abîme, les soleils brillent-ils pour un seul peuple ? Le Créateur a-t-il promulgué les lois fondamentales de l'univers pour une misérable poignée de ses créatures ? L'air, la terre, l'eau, le feu,
sont-ils réservés à une élite ?
Ton discours est celui du serpent du premier Éden,
glapit Anabin.
Comme il y a 20 ans, tu tends la pomme de discorde, mais comme il y a 20 ans, nous refusons de la croquer. Tu cherches à emplir les têtes et les cœurs de confusion. Mais aucun élu ne se laissera emporter par le flot amer de ton langage. Les humanités dispersées ont-elles observé les préceptes de la Sainte Bible? Ont-elles jeûné tous les ans pendant 40 jours? Ont-elles rendu grâce au Créateur et à ses dieux? Seront-elles présentes sur Jérusalem le jour glorieux du passage d'Exaxas?
San Francisco fit quelques pas dans l'allée centrale entre les haies de ses gardes du corps qui, dès qu'ils avaient pénétré dans le temple, avaient rengainé leurs épées. Le proscrit laissa errer son regard sur l'océan de tête qui l'environnait et dont les vagues sombres léchaient les claveaux des hautes voûtes. Bien qu'il y eût une chance sur des milliers de repérer une personne précise au sein de cette multitude, il fut déçu de ne pas entrevoir le visage de Phénix.
Il y a de multiples façons de rendre hommage au Père Créateur et au Dieu,
reprit San Francisco. Dans le silence absolu du temple de glace, sa voix douce et triste prenait des intonations tragiques.
Vous, Abin, avez confisqué le verbe de la Bible pour assouvir votre soif de pouvoir et de domination. Vous avez contraint le peuple élu à se terrer pendant des siècles sous le glacier pour être certain qu'il n'échapperait pas à votre contrôle. Dès lors, comment les humanités dispersées auraient-elles pris connaissance des enseignements sacrés? Vous avez agi comme un savant qui refuserait de mettre ses découvertes à la disposition des hommes. Ces découvertes, pourtant, ne lui appartiennent pas. Il n'est qu'un instrument dans les mains du Père. Vous êtes également les instruments du Père, mais vous avez refusé de jouer sa céleste partition. Votre interprétation des textes sacrés n'est qu'une mélodie pauvre et sans joie.
Jake jeta un bref coup d'œil sur les gradins des premiers rangs, sur la rangée des fauteuils princiers et sur les 4 abîmes statufiés devant les globes. Il vit que le langage de San Francisco suscitait de l'intérêt chez les Jérusalémines, de l'admiration chez certains princes et de la colère chez les prêtres.
« Il suffit !»
cria Anabin.
« Tu as été condamné à l'exil par le conseil abinien et par tes pères il y a 20 ans de cela. Nous aurions dû alors réclamer ta tête. »
Le prince Vancouver des Canadiens se leva, traversa la nef à grandes enjambées et vint se placer devant San Francisco. Plus petit que son vis-à-vis, plus massif également, il portait une cape de la même couleur que sa peau, d'un ocre qui tirait sur le brun. Ses pommettes hautes et rondes occultaient ses petits yeux renfoncés, sur lesquels ses paupières lourdes tiraient un rideau hermétique. Des fils argentés couraient dans ses cheveux lisses.
« Ta démarche est aussi vaine qu'affligeante !»
gronda le prince Vancouver d'une curieuse petite voix aigrelette.
« Ta compassion pour les Gox t'égare, San Francisco. À quoi servent les discours égalitaires à quelques jours du passage d'Exaxas? Au nom des princes de Jérusalem et de l'Ancien, je te donne le choix suivant. Évacuer immédiatement ce lieu sacré et t'en retourner sur les mondes puants d'où tu n'aurais jamais dû revenir. Ou bien recevoir, toi, les Gox et tes hommes, le châtiment réservé à ceux qui ont violé les lois de la Sainte Bible. »
Jake fixait le pommeau ciselé et scintillant de l'épée du prince Vancouver. Il s'attendait à tout moment à ce qu'il extirpe son arme de son fourreau tressé et en abatte la lame sur son cou. Les frissons qui parcouraient son échine n'étaient pas seulement dus au froid persistant qui ensevelissait le temple. Robin de Fart scrutait attentivement le globe de la Jérusalem céleste. Certains noms inscrits sur les taches jaunes, vertes et brunes des continents lui rappelaient vaguement quelque chose. Il était persuadé qu'ils avaient un rapport avec un livre antique qu'il avait feuilleté sur l'un des multiples mondes qu'il avait visités. Mais il avait beau fouiller dans ses souvenirs, il n'avait pour l'instant pas accès au compartiment de sa mémoire où gisaient ses informations. San Francisco s'approcha de Vancouver et le dévisagea avec dédain.
« Mon cœur n'en attendait pas moins de toi, prince des Canadiens, et ma tête déduit de ton intervention que tu as reçu ma tribu en héritage. »«
Pas entièrement. Le conseil des Abines a décidé, dans sa grande sagesse, de répartir équitablement ton territoire et tes sujets entre le prince Acapulco et moi. Et maintenant, pour quelle solution optes-tu ? Le repli immédiat ou la mort ? »
San Francisco se détourna de lui, s'avança vers les Abines et désigna Jek d'un geste du bras.
« Abine, la faveur que je viens vous demander n'est pas pour moi, mais pour un autre prince, le prince des Hyènes d'Utgen. Accédez à ma requête et je repartirai dans l'instant. Je vous supplie d'autoriser cet enfant à entrer dans le ventre d'un Xaxas. »
Des murmures indignés se répandirent comme des ondes lumineuses dans les gradins, se transformèrent en clameurs, en vociférations. Un vacarme assourdissant submergea entièrement le temple et le parvis. Jek n'osa pas regarder autour de lui, mais il sentit le souffle de la haine sur sa nuque et son visage, et il se fit encore plus petit dans son manteau de fourrure. Robin craignait que les huées des 30 000 Gersalémines ne provoquent de subites trépidations et fissures dans les murs et les voûtes de glace. Les Abines écartèrent les bras pour rétablir le calme.
« Cette adjuration était en trop !»
rugit l'un d'eux lorsque le silence, encore approximatif, fut retombé sur la nef.
« En ces jours de pardon, nous étions disposés à te laisser repartir en vie, San Francisco. » Mais tu nous fournis toi-même le motif de ta condamnation. En nous sommant de permettre à un Gok d'entrer dans le ventre du Xaxas, tu ordonnes de violer les 5 commandements de la Nouvelle Bible. Vos faux frères humains sont maudits pour l'éternité, dit le verset du livre premier des Xaxas, et le globe les a reniés jusqu'à la fin des temps. Voici la preuve éclatante de ta félonie. Ton but n'est pas d'aider les humanités dispersées, mais de souiller la Jérusalem céleste, d'introduire un impur, un serpent dans le nouvel Éden. »
San Francisco se drapa dans sa cape et se dressa fier et droit face à ses accusateurs.
« La nouvelle Bible ne désigne pas les peuples dispersés lorsqu'elle évoque les faux frères humains, mais tous les individus, quelle que soit leur origine, dont le sentier du cœur est obscurci par les ronces du mépris et de la haine. Comme vous, Abine, et il ne suffit pas d'être un descendant des 140 000 fraélites et d'être né sur Jérusalem pour faire partie des élus. Le peuple du Père Céleste se compose de tous les hommes qui ont entrepris la quête de la vérité, de leur vérité. »
« Nous connaissons déjà tes arguments, » l'interrompit le prince Vancouver. « Ce sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Être un élu, cela se mérite à la fois par la naissance et l'observation des préceptes de la Sainte Bible. Tu as renié tes origines, renié le verbe de Fraël. En réalité, en plaidant la cause de ce petit Gok, tu plaides ta propre cause. Finissons-en, Abine. Ce débat est clos depuis plus de 20 ans et... « nous devons encore nous préparer à accueillir les migrateurs célestes. »
Les deux princes s'affrontèrent du regard avec une telle intensité, une telle violence, que Jek les crut sur le point de s'entretuer. « Tu commets une erreur, Vancouver, » lâcha San Francisco entre ses dents serrées.
« Une tragique erreur. Les Xaxas sont bien autre chose que de simples véhicules spatiaux. Ils sont les révélateurs de l'âme. » Et tellement noire est la tienne que tu risques de te retrouver en enfer. »
Le prince des Canadiens éclata d'un rire étranglé qui vrilla les tympans de Jek.
« Et toi, tu finiras dans le trou du cul d'un oursigre sauvage !»
Robin de Fart n'avait pas retenu grand-chose de leur conversation. Il avait cru comprendre qu'ils achoppaient sur un point d'interprétation des textes de la Bible. S'il ne leur avait pas accordé son attention, c'était d'une part parce que ce genre de conflit était monnaie courante dans les mondes colonisés par les hommes. Sur quelque planète que ce fût, chacun tentait de s'approprier les écritures sacrées et était prêt à torturer, à tuer, pour imposer sa vision des choses. Et d'autre part, parce que l'exploration des arcanes profonds de sa mémoire mobilisait l'essentiel de son énergie. Il avait à présent fait le rapprochement entre les noms inscrits sur le globe et les patronymes des compagnons de San Francisco. Il avait repéré les mots Shanghai et Moscou sur un grand continent appelé Europe-Asie, l'un situé à l'Orient et l'autre au Nord-Ouest, mais bien que persuadé de posséder la clé de l'énigme dans un recoin de son esprit, la genèse de ces noms lui échappait sans cesse, et ses constantes dérobades commençaient à l'exaspérer. Il maudissait la vieillesse et l'altération des fonctions intellectuelles qu'elle induisait. Marty, lui, n'avait qu'une envie, déguerpir au plus vite de Jérusalem. Il devinait qu'il n'y avait rien à attendre de bon de la confrontation entre San Francisco et les Abines. L'autre, le démon, ne se manifestait pas pour l'instant. Mais le jeune Kervaleur n'était déjà plus tout à fait lui-même. L'enveloppe de son corps se vidait lentement de son individualité, de son essence. La bouche déformée par un rictus, le prince Vancouver retourna s'asseoir sur son fauteuil et se pencha sur son voisin pour lui glisser quelques mots à l'oreille. Les quatre abîmes se concertèrent et leurs chuchotements égratignèrent l'irrespirable silence. Les membres de la tribu des Américains, disséminés dans la foule, n'avaient plus le désir ni la volonté d'accorder leur soutien à leur prince banni, à ce protecteur déclaré des Gox, à ce traître, à ce faux frère, à cet être aussi abject que les engeances des semences infectées et des ventres putrides.
« Tu as franchi le seuil où tes prérogatives de prince ne te protègent plus, » déclara un abîme. « Dans la journée de demain, tu seras dévêtu et jeté en pâture aux doux sigles sauvages du cirque des pleurs. T'accompagneront les trois Gox et tous les volontaires qui exprimeront le désir de partager ton sort. »
Un voile blême glissa sur le visage de San Francisco, dont les traits demeurèrent impassibles.
« Que les princes de Jérusalem qui n'approuvent pas cette sentence se lèvent et fassent entendre leur voix. »
Quelques princes baissèrent la tête et s'abîmèrent dans la contemplation du sol de glace pavé de morceaux de fer, mais aucun d'eux ne bougea de son fauteuil.
« Quant à vous, hommes qui avez quitté vos tribus pour servir le prince maudit, vous pouvez dès maintenant recevoir le pardon de vos pères et de vos dieux. Vos têtes et vos cœurs doivent prendre une décision sur l'instant. » Ou rester en compagnie de San Francisco et des Gox, ou remettre immédiatement vos épées à vos princes et vous écarter des condamnés. »
Du regard, San Francisco encouragea ses hommes à se rendre à la sommation des Abines. Certains le servaient depuis 20 ans. Ils avaient volé un vaisseau du globe, s'étaient exilés sur Franzia pour l'accueillir, selon les honneurs dus à son rang, lors des courtes escales du Papiduc. En retour, il leur avait donné l'intégralité de sa solde, afin de les aider à subvenir à leurs besoins. Il lui vouait une affection sincère, profonde, car c'était un seigneur, un prince généreux et juste qui, contrairement à leur souverain légitime, ne les avait jamais déçus. Ils étaient prêts à donner leur vie pour lui. Mais son regard attristé les implorait de ne pas répandre le sang dans le temple de Salmon, de le lâcher, de le trahir. C'était un ordre muet, impératif, douloureux, qu'il leur fallait exécuter comme n'importe quel ordre. La mort dans l'âme, les larmes aux yeux, ils déposèrent un à un leur épée au pied des Abines et désertèrent lentement l'allée centrale.
« Que ceux d'entre vous, membres du peuple élu, qui souhaitent partager le sort de San Francisco, et des trois Gox se joignent à eux maintenant ou jamais !»
reprit l'abîme d'une voix puissante.
« Moi !»
San Francisco reconnut cette voix, même si elle était devenue plus grave avec le temps, et son cœur bondit dans sa poitrine. Il aperçut une silhouette familière qui se frayait un difficile passage le long d'une travée supérieure. Elle dévala l'étroit escalier d'accès au gradin, déboucha sur l'allée centrale, courut vers lui et se jeta dans ses bras.
« Phénix !»
Il l'étreignit un long moment, se rassasia de son odeur, de sa tiédeur, de son souffle. Puis il la saisit par les épaules, la repoussa et la maintint au bout de ses bras tendus. L'adolescente encore noyée dans les rondeurs de l'enfance s'était métamorphosée en une femme splendide. Son visage s'était légèrement creusé, son cou allongé, ses yeux agrandis, ses lèvres étirées. Par l'échancrure lâche de son manteau d'oursigre, il entrevoyait le mouvement ample de son orgueilleuse poitrine qui, lorsqu'il l'avait quittée, n'en était qu'au stade des promesses. Ses cheveux noirs, lisses et brillants, lui descendaient jusqu'à la taille. Ainsi qu'elle lui en avait fait le serment, elle ne les avait jamais coupés. « Tu ne dois pas rester avec moi, Phénix, » souffla San Francisco, « ou tu ne gagneras jamais la Jérusalem de lumière. »
« Je m'en moque, » dit Phénix. « L'Éden n'aurait aucun intérêt sans toi. Je veux brûler en toi les dernières heures qu'il me reste à vivre. »
« Tu m'oublieras. »
Mon cœur t'a attendu pendant 20 ans. Il n'attendra pas davantage.
Pense à tes parents.
J'ai 36 ans, prince. Il est grand temps que je sorte de leur tête et de leur cœur. Inutile de chercher à me convaincre. Ma décision est irrévocable. Pendant ces quelques heures, je te couvrirai d'un amour si fort qu'il fera fondre la glace et traversera le pays de la mort.
San Francisco sourit à la jeune femme et l'attira à lui. Leurs lèvres et leurs mains s'épousèrent. Jake repensa à ses parents provisoires qui s'étaient embrassés avec une incroyable voracité dans le tube souterrain d'Anjor. Les baisers avaient ce curieux pouvoir d'isoler les couples de leur environnement, même le plus hostile. L'énoncé de la sentence avait d'abord pétrifié d'effroi le petit Anjorien. Mais la chaleur qui se dégageait de l'amour de Phénix pour San Francisco, si elle n'avait pas encore liquéfié la glace, avait dissipé sa peur comme par enchantement.
« Que les gardes enferment les condamnés dans une salle du cachot du Torai !»
ordonna un abîme.
« Je n'ai rien à voir avec tout ça !»
hurla tout à coup Marty.
« Je ne voulais pas venir sur Jérusalem !»«
N'avez-vous donc aucune dignité, Marty ?»
le réprimanda Robin de Fart. Ce n'était pas le jeune Kervaleur qui avait parlé, mais l'autre, le démon, qui prenait conscience que son véhicule corporel était en danger de mort.
« Taisez-vous, Gox, ou je vous fais exécuter sur le champ !»
gronda Labine.
« Le son de votre voix est une offense au Créateur !»
L'autre changea aussitôt d'aiguillage. Il lui faudrait mettre à profit ces quelques heures de sursis pour réfléchir à un moyen de changer le cours des choses. Escorté par les gardes princiers, les condamnés sortirent du temple de Salmon sous les lazzi de la foule. Au moment où ils franchissaient le seuil du portail monumental, Robin de Fart se remémora enfin la page brune et sale de l'antique livre qu'il avait ouvert par hasard dans la bibliothèque d'un village de la planète Nouvelle-Mars. C'était une map-monde aux couleurs passées et aux noms à demi effacés.